insister d'abord sur la première, et puis un petit peu moins sur la deuxième, et très peu sur les autres, d'accord? Et c'est principal. Et puis aussi, faites le lien, parce que les EAP ont eu à l'esprit de me renvoyer le projet paroissial qui a été écrit, c'était l'an dernier, non? Ou un petit peu plus? Avant le synode, 3 ans, oui. Et c'est quand même assez étonnant, quand je l'ai relu, il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut retrouver déjà dans votre projet paroissial. Ce qui me permet aussi de dire, il arrive quelquefois qu'on croise quelques mauvaises langues et qu'ils disent, bah, si c'est pour accoucher de saint synode, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et vous avez bien entendu ce qu'a dit notre évêque. Il dit, ce n'est pas les décrets qui sont importants, c'est le processus. Ceux parmi vous qui ont vécu le synode il y a 30 ans, moi je faisais partie, j'étais le benjamin, bah, ça nous marque, jusque-là, ouais, depuis 30 ans, ça marque d'être entré dans cette dynamique d'un diocèse, et puis quand même de se dire ensemble, les axes qu'on s'est fixés, c'est ceci et cela. Important. Et pareil, un synode, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'Église, c'est depuis 2000 ans, puisque le premier synode, vous l'avez au chapitre 15 des Actes des Apôtres, qui est le synode de Jérusalem. Donc dès les débuts de l'Église, il y a ces synodes qui ont marqué l'histoire de notre Église, sur des choses très concrètes. Vous voyez, nos amis les Pans sont venus parce que à la fenêtre, ils savent, c'est leur thème. Je vous présente, si vous ne connaissez pas, il y a Pétronille.
Marcus.
Marcus, alors il y a leur fille, mais Marcus est parti ailleurs. Ils ont une petite. Non, c'est ça. Alors, je vous présente donc les 7 orientations pastorales. La première de toutes, sauf. Sophie vous a dit le mot qui est ressorti en force. C'est fraternité. Quand on se projette en disant qu'est-ce qu'on veut pour notre communauté paroissiale, c'est de la fraternité. Hein. Ça ressort vraiment dans toutes les remontées du synode, ça, joie et convivialité, hein, les mots. Donc, c'est pas que ça n'existe pas nécessairement, mais c'est que quand on a besoin de se définir par rapport à notre société, on voudrait que nos communautés chrétiennes apparaissent comme des lieux de fraternité et de joie. Et donc, la première orientation, donc des choses à mettre en place, c'est de mettre en place dans tout le diocèse des petites fraternités locales. Alors, tous les mots sont importants. C'est sur cette orientation que moi, je vais surtout m'arrêter. Ce qui est un peu particulier pour nous, avec Sophie aujourd'hui, c'est que là, on parle aux deux paroisses de centre-ville de la ville principale du département. Et donc, on n'a pas vraiment encore testé ce que veut dire petite fraternité locale dans ce contexte-là. Nous, on l'a surtout présenté dans le monde rural, mais avec vous, en tout cas, il va falloir se donner des pistes, parce que ça vaut aussi pour, effectivement, le centre-ville du Mans. Quelle est l'idée derrière? D'abord, on parle de petites. C'est-à-dire qu'on n'est pas 15, mais on est 4 ou 5 dans une fraternité. On peut augmenter, il n'y a aucune règle stricte qui sont données. Mais c'est un petit groupe qui ne s'est pas choisi. Donc c'est le mot fraternité, qui ne s'est pas choisi par sensibilité ou affinité, mais qui s'est choisi de la manière suivante, et c'est le troisième mot, local, c'est de repérer en fait dans son quartier, qui est-ce qui a été baptisé dans notre quartier? Et parmi ces baptisés, qui se reconnaît chrétien, disciple du Christ? Alors n'en mettons pas trop sur le terme disciple du Christ, c'est simplement qui reconnaît que sans l'évangile, en fait, le monde ne pourrait pas tourner. Vous voyez? C'est pas nécessairement les personnes de mon quartier qui vont à la messe le dimanche. Mais qui est-ce que je connais, ou je suppose connaître un petit peu, et qui se reconnaît quand même dans l'Évangile, et qui voudrait faire partie de cette petite fraternité? Pourquoi j'insiste sur le fait que ce n'est pas nécessairement des gens qui vont à la messe le dimanche? C'est qu'on s'est bien rendu compte au cours de ce synode qu'il y a un vrai souci pour les personnes qui sont écartées de nos communautés chrétiennes depuis des années, ou celles qui n'y sont jamais rentrées, qui sont largement majoritaires, hein. C'est hyper difficile de pousser la porte de nos églises quand on n'y est jamais allé ou quand on n'y est pas allé depuis 20 ans. Parce qu'à l'extérieur, on s'imagine plein de choses. Alors, soit on peut s'imaginer que les gens à l'intérieur sont hyper sympas et on va être hyper émus, donc on ne va pas tenir en voyant tant de charité qui nous accueille dans l'église. Soit on se dit, ils vont me regarder avec quelle tête les chrétiens. On se dit, attends, elle, on la connaît, on ne l'a jamais vue à la messe. Et puis en plus, elle vit avec quel mari, ce bonhomme, ben lui, quand on voit son métier et sa profession, c'est pas trop chrétien. Vous voyez, les gens ont ça dans leur tête. Comment est-ce qu'on va être jugé si jamais on mettait les pieds dans une église? Alors, il y avait une des personnes qui a fait le parcours alpha. Isabelle, elle n'est pas là cet après-midi? Je ne sais plus qui m'a présenté Isabelle tout à l'heure, mais...
Elle n'est pas là,
qui fait le parcours alpha et qui est venue pour la première fois ce matin, quoi. Mais elle est venue parce qu'elle a été accompagnée. On a accompagné Isabelle. Ah, décidez, décidez. On a accompagné Isabelle et là, elle a pu passer la porte de nos églises. Vous voyez, nos petites fraternités, elles peuvent aider peut-être à ça, à aider les gens à faire ce pas qui est énorme, encore une fois, quand on ne l'a jamais fait ou qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps. Les petites fraternités locales aussi, c'est se sentir, nous, responsabilisés dans notre quartier pour annoncer l'Évangile. On voit bien que dans notre église, et ça se dessine depuis 50 ans, depuis le Concile Vatican II, vous connaissez ce merveilleux texte, Lumen Gentium, qui est la constitution sur l'Église, et qui dit, il n'y a pas simplement les curés et les religieuses qui sont missionnaires, mais chaque baptisé porte en lui cette responsabilité d'annoncer l'Évangile. Donc ça fait 50 ans, on commence ce refrain à l'entendre, à le comprendre, mais on le met en pratique petit à petit, mais sans cesse il faut qu'on prenne courage à le faire. Je me sens responsable de l'annonce de l'Évangile dans mon quartier. Je n'ai pas besoin d'attendre M. le curé pour organiser, par exemple, si j'ai ce charisme-là, pour organiser un chapelet dans mon quartier. Et dire à telle ou telle personne que je connais, ou dans ma cage d'escalier, de dire « Viens à la maison, moi j'organise un chapelet. » Au nom de mon baptême, je peux faire ça. Je peux créer un petit groupe de partage d'Évangile. Je peux créer un petit groupe... ce qu'on entend du Père Louzeau nous dire souvent ça, sur un fait d'actualité, rassembler 4-5 personnes du quartier et dire, on va réfléchir ensemble, la crise des gilets jaunes, pour que ce soit du concret, ou les retraites, et de dire, comment nous, chrétiens, on se situe dans ces sujets de société. Des petites fraternités où on réfléchit, et où on se porte dans la prière. Et enfin, le troisième axe de ces petites fraternités, c'est de dire, comment on pose ensemble des actes de charité. Bon, je vous l'ai dit effectivement ce matin, moi je suis vraiment impressionné par tous les actes de charité et ceux que vous avez inventés, les systèmes, dans votre ensemble paroissial. Ça c'est évident. Et c'est vraiment magnifique. Comment est-ce qu'on s'entraide, peut-être juste au niveau du pâté de maison, pour dire aussi, on sait que Janine, la semaine dernière, elle s'est cassée le fémur, ses enfants ils habitent à Marseille et l'autre à New York. Nous, en tant que chrétiens, vous le faites déjà, mais c'est pour juste leur donner des billes. Concrète. Comment on s'occupe d'aller faire les courses au Carrefour Market pour Janine, quoi. Et parce que Jésus nous dit, la seule astuce qu'il nous donne dans l'Évangile pour que ça marche, vous connaissez la phrase, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc vous voyez, l'idée des petites fraternités locales, c'est de ramener le niveau de responsabilité au plus près du terrain. En fait, je crois qu'on fait exactement l'inverse de l'organisation de nos sociétés civiles aujourd'hui, si on applique ça. C'est-à-dire, nous, on dit, non, il faut que le niveau de responsabilité numéro un soit au plus proche de la vie des personnes. Alors, vous voyez dans vos quartiers, dans les villages, quand on passe avec Sophie, on voit bien tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça veut dire. Pour beaucoup, vous le savez aussi, de dire, j'aimerais bien faire baptiser mon enfant... Aujourd'hui, où est-ce que je vais pour demander le baptême pour mon enfant? Quand j'habite dans le rural et que l'église la plus proche est à 25 km, vous voyez, où est-ce que je cherche? Même sur Internet, le mot presbytère, l'immense, immense majorité de nos contemporains ne connaissent pas le mot presbytère, vous savez bien. C'est un mot inconnu, quoi. Et j'ai même entendu, c'est la radio... Hier, qui est-ce qui s'est fait avoir là-dessus? C'était sur Europe 1, je crois. Et quelqu'un qui venait parler sur Europe 1 et qui disait, c'était Philippine de Saint-Pierre qui venait pour les, je crois, 20 ans de Catéo ou quelque chose comme ça, qui était invitée sur Europe 1. Et à un moment donné, elle dit, la plupart de ceux qui font vivre Catéo, ce sont des laïcs. Et puis, c'est Vandel qui devait l'interviewer, qui l'arrête tout de suite. Il dit, attends, mais je comprends pas, Catéo, c'est une chaîne catho, pourquoi c'est des laïcs qui mènent ça? Parce que le mot laïque aujourd'hui, dans la société civile, ça veut dire c'est quelqu'un de laïcard, vous voyez. Alors, je dis souvent aux équipes de funérailles, par exemple, quand c'est pas un prêtre qui préside les funérailles, dites pas que c'est un laïc qui le fait, mais dites que c'est un chrétien de la paroisse. Parce que le mot laïque aujourd'hui dans la société ne veut plus dire la même chose. Et moi j'ai eu plusieurs coups de téléphone ici, il y a des gens qui disent, attendez, c'est un laïc qui va faire la sépulture de mon grand-père, alors que nous, on est allé frapper à la porte de l'église. Alors ça peut nous dépasser, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Donc nos petites fraternités, elles peuvent rapprocher vraiment les uns et les autres de manière toute proche. Enfin, je vois un dernier élément dans la fraternité, c'est qu'on met l'action de Dieu au premier plan. Si je monte un groupe comme à 10, si je vais en équipe Notre-Dame, c'est pas un peu la fête des équipes Notre-Dame aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est demain c'est reporté, mais c'est le 8 décembre en général, c'est ça. Si je vais dans une équipe comme ça, ou la communauté d'Emmanuel, ou je ne sais quoi, j'y vais par affinité. Et est-ce que je me retrouve dans ce que me propose ce mouvement? Et c'est très bien de faire ça, et il faut continuer à faire, c'est évident. La fraternité, ça a quelque chose de différent, c'est que c'est Dieu qui fait le choix de mettre des hommes et des femmes ensemble. C'est-à-dire, si j'habite boulevard Négrier, et je regarde qui Dieu a appelé au baptême, boulevard Négrier, et puis je découvre que deux maisons plus loin, et je le sais bien depuis des années, le Seigneur, il voudrait mettre en fraternité avec eux. Mais on ne supporte pas depuis le début. Oui. Mais c'est ça la différence entre une équipe, un mouvement et la fraternité. C'est la fraternité, c'est Dieu qui dit, est-ce que tu veux bien accepter ton frère et ta sœur et vivre la dimension fraternelle là où tu habites. Comme, je trouve, ça nous sort de nous-mêmes. Hein. Parce que je me pose la question, pour nous-mêmes sur la place Cardinal Grand, il y a un côté, ils sont où? C'est les Langers, donc à peu près, ça serait à peu près convenable. Mais de l'autre côté, ça va être compliqué de vivre avec en fraternité de l'autre côté des Pangorons. Mais c'est Dieu, c'est Dieu qui m'impose cette fraternité, parce que c'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui choisit les disciples. Je ne choisis pas avec qui je vis. Alors un peu à cheval sur la... Ça va pour cette orientation ? Et alors là, on a besoin vraiment de votre aide, parce que je vous dis, c'est la première fois qu'on me présente en situation vraiment urbaine. Dans le rural, je peux vous dire, les gens, ils accrochent à cette idée, parce qu'ils se sentent isolés. Hein. Permettez-moi juste, parce que je leur ai expliqué votre situation à la cathédrale de la Couture, parce que vous savez, dans le rural, ce que disent les gens de vous, ils disent, nous, ça, franchement, c'est insupportable, parce que au moins, ils ont plein de prêtres. Et ils ne nous comprennent vraiment pas. Alors quand je vais là-bas, je vous promets qu'à chaque fois, je leur explique et je leur démontre que ce n'est pas tout à fait vrai. Hein, et qu'il y a moins de prêtres sur la ville du Mans en proportion des catholiques pratiquants que dans le monde rural. On a à peu près dans le rural, on a en proportion, on a deux fois plus de prêtres par rapport au nombre de pratiquants qu'en ville. D'accord ? Et donc je leur dis, vous voyez, c'est quand vous avez une communauté chrétienne, vous avez 800-900 pratiquants, faut être présent avec les gens, faut les nourrir, et on n'a pas suffisamment de prêtres par rapport au nombre de pratiquants. Par contre, je me charge de dire aussi, quand je viens à Centre-Ville du Mans, je prends l'exemple de, j'étais à, pour la paroisse du Grand Lucé, Parigné-l'Évêque, il y a trois semaines, et ils ont fait ça toute une journée, fraternelle, exactement comme vous. Et en gros, la communauté pratiquante du dimanche est 45 personnes dans cette région de la Sarthe. Les 45 étaient là toute la journée. Primo. Il y a Parigné-l'Évêque, il y a le Grand Lucé, et ils sont retrouvés à Montreuil-le-Henri. C'est-à-dire le lieu le plus. La plupart ont fait 35 km pour aller à cette journée, quoi, et vivre une Eucharistie commune. Je leur ai promis que je vous le dirais. Autant je leur ai dit, attention, ne rêvez pas ce que vivent les chrétiens du centre-ville du Mans, parce que c'est pas tout rose, mais autant ça vaut le coup de s'entendre et puis de savoir qu'aussi, des fois, il y a ces petites tensions. D'où, Sophie, merci. À partir du moment où on a des petites fraternités locales, l'évêque il dit c'est joué pour l'Eucharistie dimanche, sans problème. Parce que on repart sur le fait que le sacrement de l'Eucharistie, c'est pas avoir chacun la messe pour sa chapelle ou dans son style ou pour son mouvement de jeûne, d'aîné. C'est l'Eucharistie. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu instituer au moment de l'Eucharistie? Il a voulu rassembler une dernière fois les 12 hommes qu'il avait choisi pour les envoyer en mission. Il avait conscience que les 12 bonhommes qu'il avait choisis, il y avait des animosités entre eux qui étaient assez fortes. Il y en avait qui ne s'aimaient vraiment pas du tout. Hein. Et vous remarquerez dans l'Évangile, on ne dit jamais, l'une des rares choses qu'on ne dise pas sur les apôtres, c'est qu'ils s'aimaient. On ne dit pas qu'ils s'aimaient. Et regardez plutôt entre Saint Jean et puis Saint Pierre, dans les Évangiles, C'est pas très tendre. Hein. Et Jésus, avant de mourir, a voulu rassembler, célébrer l'Eucharistie comme le sacrement d'unité pour ses 12 hommes et en faire le sacrement de l'unité. Nous, on voudrait revenir aussi à cette source-là du sacrement de l'Eucharistie. Et donc l'évêque dit, ben, en gros, il y a des fraternités locales et ce qui rassemble ces fraternités locales, c'est l'Eucharistie dominicale. Imaginez la carte de la Sarthe. Moi, c'est l'image que... Alors, elle est pas nécessairement bonne, mais au moins, visuellement, moi, ça m'a aidé à comprendre la dynamique. Quand moi, je vois la carte de la Sarthe dans ma tête, je vois tout de suite, non pas se dessiner les cantons, mais se dessiner les limites des ensembles paroissiaux. Il y a ce dessin qui se fait dans ma tête. Dans notre nouvelle démarche, on voudrait se représenter une carte de la Sarthe totalement vierge, qu'en esprit, hein, vous inquiétez pas, hein, totalement vierge des structures, des limites paroissiales, et on voudrait voir apparaître au fur et à mesure, dans les 2 ans qui viennent, des petites aiguilles avec une tête d'épingle rouge, là, et à chaque fois qu'une fraternité locale se crée, on pointe une petite aiguille sur la carte. Au bout d'un moment, quand on se dit qu'en gros, les fraternités locales se sont décidées par vous-même, hein, pas par d'autres interventions, avec l'évêque, on regarde la carte, puis on se dit, tiens, on voit, je prends un chiffre au hasard, c'est pas du tout réfléchi, parce qu'on n'en est pas là, mais dire, tiens, ici, on a 20 têtes d'épingle dans le nord-est de la Sarthe, c'est-à-dire on a 20 fraternités locales. Eh bien, l'évêque dit, je vais envoyer un ministre de la communion pour ces 20 fraternités locales. C'est-à-dire, je vais leur envoyer un prêtre pour faire l'unité entre ces 20 fraternités, et donc célébrer les sacrements et tout. Vous voyez du coup dans quelle dynamique on rentre. C'est qu'on n'essaye plus d'agrandir au fur et à mesure nos limites paroissiales jusqu'à plus de souffle, mais c'est qu'on part de la réalité. Où est-ce qu'il y a des chrétiens qui se sentent responsables de l'Évangile? Et là où il y a des chrétiens qui se sentent responsables de l'Évangile, l'évêque, ça c'est la théologie de Vatican II, dit, moi ne pouvant pas être au milieu de tous, j'envoie mes collaborateurs, que sont les prêtres, pour faire l'unité entre ces fraternités. Vous voyez le changement un peu de logiciel? Ce qui fait qu'on part de la réalité et non pas de notre imaginaire ou de ce qu'on voudrait qu'il soit. Quoi. Je vous prends un exemple aussi concret. Par exemple, à Angers, le père Vianney Bouillet, c'est un exemple, hein, j'ai l'exemple à Saint-Malo, pareil. Il s'est dit ceci, il s'est dit, le dimanche dans l'Eucharistie, je célèbre une Eucharistie ou deux, parce que des fois, vous avez un problème très concret, c'est que vous ne pouvez pas faire entrer toute l'assemblée, par exemple, dans la couture. C'est l'un des rares lieux, mais je pense que ça serait quand même juste. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est de dire, le dimanche, l'Eucharistie, elle rassemble les chrétiens. D'accord? Et sur la ville, franchement, vous imaginez bien, quand il faut faire 200 mètres, voire 500 mètres pour aller à la messe, que personne ne dise que c'est inaccessible, quoi. On est d'accord. Mais, en semaine, par exemple, qu'est-ce qu'ils font dans ces lieux-là? Ils disent, moi, plutôt que de dire, on est aujourd'hui en décembre, eh bien, je sais que le mardi 24 juin à 18h, j'irai dire la messe à la maison de retraite de la Girardière, ou alors j'irai dire la messe dans tel village de Pincé. Eux, ils arrêtent de dire ça dans ces coins-là. Ils disent, moi, c'est à la demande des petites fraternités locales qu'en semaine, je vais célébrer l'Eucharistie. Dans une cage d'escalier, chez un malade qui ne peut plus venir à la messe, mais à qui ça fera énormément plaisir d'avoir la messe dans sa chambre. Et dans ce cas-là, la fraternité locale, elle invite les cathos qu'elle connaît autour. Le témoignage de ceux qui vivent ce système-là, ils disent, mais on n'a jamais eu autant de monde à la messe en semaine. Parce que du coup, c'est la petite fraternité locale qui se sent responsable d'inviter à l'Eucharistie. Et c'est pas simplement, on a prévu 10 mois à l'avance, que tel jour à telle heure, tout le monde sera à la messe à tel endroit. Et bon, c'est des petites idées. En tout cas, l'Eucharistie du dimanche, c'est le lieu où on se rassemble, parce que le Seigneur nous a imposé ce système-là. C'est pas nous qui avons, c'est le Seigneur a imposé ça comme ça, comme l'unité. Et puis, en semaine, pourquoi pas avec l'Eucharistie, continuer chez les malades ou ailleurs. Voilà les deux principales orientations. Après, je ne fais que citer la troisième, c'est tout ce qui touche l'accompagnement. comment on accompagne les personnes, pas simplement avant les sacrements, mais après les sacrements. Mais ça, vous pourrez retravailler cette question entre vous. Hein. Mais on ne peut pas tout faire un dimanche après-midi. La fameuse orientation des tisserands, on a entendu une fameuse Priscille, je crois que vous avez vu dans la vidéo, ça tombe sur elle en plus. Mais le premier couple saint dans l'Église, c'est Priscille et Aquilas, hein, et qui étaient des tisserands. Et l'idée, c'est que c'était surtout les amis de Paul. Et pour Paul, c'était important pour lui d'avoir ce couple missionnaire à ses côtés. L'idée de notre évêque derrière ça, c'est de dire chaque curé, non pas chaque prêtre, mais avec chaque curé, dans une communauté paroissiale, il devrait y avoir un couple. Alors un couple, c'est pas deux personnes de la paroisse, c'est un couple qui vit le sacrement du mariage, pour que toute la communauté, à travers le curé et le couple, puisse voir cette fameuse complémentarité des vocations qui est demandée dans le Concile Vatican II, et puis que cette amitié spirituelle qui peut se vivre entre un couple et un prêtre, même si on ne commande pas une amitié, mais vous voyez bien ce que ça peut vouloir dire, soit vraiment fondatrice. C'est l'icône qu'on a devant nos yeux. Un prêtre, il n'est pas prêtre pour lui-même. Vous voyez, il est prêtre pour le peuple de Dieu. Et il est là pour servir principalement les familles. Donc l'idée, c'est de mettre vraiment au cœur et à la tête de toute communauté chrétienne la présence de la famille. Alors ça peut être tout simple, c'est pour soutenir le curé, de lui dire, tiens, mais comment ça va cette semaine? Vous voyez, il ne se voit pas tous les mois, hein, il se voit toutes les semaines, hein, le curé et le couple de tisserands. Mais s'inquiéter un peu du curé, que le curé aussi puisse des fois dire, attends, puisque notre mission, elle est en faveur des familles, moi, il y a un truc que j'ai pas trop pigé, qu'est-ce qui sera le mieux pour des familles? Vous voyez, en fait, cette petite aide, des fois qu'une famille dise, tu sais, si tu organises pour des jeunes parents une réunion à 18h45, c'est pas nécessairement l'horaire idéal quand il y a des enfants en bas âge, oui. Mais on sait pas nécessairement, nous. Oui. Et puis ce couple, ça serait pour 3 ans non renouvelable. Si on propose ça, c'est parce que ça existe dans des endroits. C'est aussi quand on voit par rapport au scoutisme, hein, c'est pas, les mouvements scouts sont confiés à un couple pour 3 ans non renouvelable, ce que ça peut apporter, ou beaucoup d'autres choses. Les tisserands. Mais là, l'évêque nous a dit, là, on se donne 2 ans pour réfléchir et mettre ça en place. Hein. Je peux vous dire, les autres évêques qui sont repartis, qui étaient là avec nous, lundi 10, après coup, ils ont retenu un truc, eux, c'est l'idée des tisserands. C'est intéressant. Accueillir, développer et évangéliser la foi populaire, tout ce qui est de l'ordre de la foi populaire, des petites demandes de bénédiction à la fin de la messe, de gens qui viennent avec la statue de Saint Rita, et bien de dire... C'est déjà un début de foi chez les gens. Comment est-ce qu'on accueille ça? Le nombre de cierges qui brûlent chez nous. La couture, c'est un lieu repère, par exemple. J'ai fait l'essai il n'y a pas longtemps, moi, avec les néophytes d'origine étrangère. Quand je leur dis, c'est quoi l'église de référence pour vous sur la ville du Mans? Tous, ils disent la couture. Quoi, tous ceux que j'ai interviewés, vous en trouvez qui ne diront pas ça. Non. Et ils ont beau habiter aux Glonnières, dans le quartier Maroc et tout ça, la couture. Entre autres parce que c'est à côté de la préfecture, donc pour beaucoup, c'est la première église qu'ils ont découverte, c'est pas innocent. Et, et souvent, le mot que j'ai entendu, il rajoute, bah, parce que c'est une église privée. On sent, à l'intérieur, ça correspond à leur imaginaire d'une église. Et après, ils disent la cathédrale, parce qu'ils disent, parce que c'est beau, quoi, mais ça nous fait plus peur. Il n'y a qu'à voir aussi comment la population a changé sur l'église de la couture. Hein. Si l'orientation service de la charité et sauvegarde de la création pour jeunes volontaires, c'était déjà assez long comme tout un titre, mais en dessous, vous ne voyez pas, mais ça serait pour jeunes volontaires, croyants ou non-croyants. À la suite du synode, l'évêque dit, on voit qu'il y a une immense générosité chez les jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ils sont aussi très touchés par tout ce qui touche la sauvegarde de la création. À la limite, que ça nous agace ou pas, ce n'est pas le problème, hein. Ce qui compte, c'est savoir c'est qu'est-ce qui touche les jeunes aujourd'hui. Il dit, ben, nous ouvrons un service du style, comme un service civique, où un jeune peut dire pendant 1 an, moi, je veux mettre au service de personnes malades ou SDF, ou je veux faire quelque chose qui va aider à la sauvegarde de la création. Vous voyez, mais faire cette proposition pour des jeunes, tenus par des chrétiens, hein, mais qui, éventuellement, en réalisant ce service, découvriront la foi chrétienne. Alors ça, c'est un petit couple, vous les connaissez peut-être, parce que c'est devant la tour de la cathédrale que ça se passe, à la maison Scarron. Soline et Marin Castel, à qui on confie cette responsabilité de mise en place, de réflexion de cette orientation. Et puis enfin, la dernière orientation, et après on vous libère, c'est le poste avancé d'enseignement catholique. C'était assez étonnant dans les délégués là, aux assemblées, on pourrait dire, mais ça revenait régulièrement, cette question de quid de l'enseignement catholique, qui nous permet quand même de toucher 22 000 jeunes aujourd'hui dans notre département, ce qui est pas mal. Comment on peut rejoindre par ce biais-là les parents avec les moyens du bord. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire ce qu'on peut entendre souvent quand il y a des remontées assez fortes. Dire, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de prof catho? Parce qu'on n'en a pas fabriqué. Hein. Mais on n'a pas la matière première suffisante pour que tout prof qui soit en enseignement catholique soit catho et missionnaire. Hein. Et y a qu'à pleurer. Quoi. On pleura beaucoup sur ce que nous-mêmes on a mis en place les uns et les autres. Puis après, on se dit, maintenant, on prend le système à bras de corps et comment on s'en sort avec ça. Mais l'école, en particulier aussi dans le monde rural, ça peut être vraiment un lieu où il y a. J'ai un lieu particulier en tête, hein, où à 15 km à la ronde, il n'y a plus de vie vraiment chrétienne. Mais par contre, il y a une école. Ça peut être un lieu aussi pour annoncer l'évangile. Ça prendra certainement du temps, mais il faut se réjouir. On a un directeur de l'enseignement catholique, là, aujourd'hui, depuis 2 ans, qui, à la suite de ses prédécesseurs, a aussi des vues assez nouvelles là-dessus. C'est un homme qui a été baptisé à l'âge de 12 ans. Donc, vous voyez, nécessairement, il a déjà un rapport à la foi qui peut être aussi différent. Voilà pour les 7 orientations. Les 7 chantiers, vous les direz, tout simplement. Les chantiers, c'est un... En général, c'est quoi? C'est l'évêque qui dit, à la suite du synode, je vois bien qu'il y a des questions, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de répondre. Il faut encore travailler. C'est juste ça. C'est des grosses questions, mais c'est pour dire, tout n'est pas encore clair. Comme je disais dans un lieu hier, il y a que dans les films à la télé qu'on résout une enquête en 1h30. Mais c'est que dans les films, dans la vie. Ça peut prendre des mois, voire des années.
S'il vous plaît, est-ce que je peux apporter quelque chose? Tout à l'heure, vous avez parlé des ruraux qui râlaient après les urbains qui avaient plein de prêtres. Moi, je suis souvent choquée. Bon, je sais bien qu'il y a des prêtres âgés, mais je suis choquée quand le dimanche, il y a une concélébration à 4 ou à 5 prêtres et qu'à côté de ça, il y a plein de communes, même des communes qui ont 4 000, 5 000 habitants, qui n'auront pas d'office, et alors qu'il y en a 4 ou 5 qu'on célébrait ensemble. Moi, j'ai du mal à comprendre.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est bien. Des fois, on a du mal à comprendre. Une personne dit, j'ai du mal à comprendre, qu'il peut y avoir 4 ou 5 prêtres qu'on célébrait, alors qu'il y a des communes où il n'y a pas de messe. Alors déjà, on a des prêtres aînés qui ne peuvent pas confier. Mais je vous réponds très concrètement. Moi, j'ai été curé pendant 10 ans dans le monde rural. J'avais des couples qui s'installaient dans des petits villages. Ils me disaient, quand je leur proposais qu'il y ait la messe dans les villages, ils me disaient, mais tu sais, nous, on préfère faire 10 km et aller au grand centre où on va avoir une messe vivante avec nos gamins, plutôt que dans notre petit village où ça caille dans l'église, où j'ai pas envie de faire le ménage, etc. Pour qu'il y ait des prêtres qui aillent dire des messes dans des communautés, il faut aussi qu'il y ait des communautés chrétiennes. Et ça, des fois, c'est dans notre rêve, dans notre imaginaire, on se dit, les prêtres, ils pourraient aller à Pincé, pareil. Mais comment un prêtre pour aller à Pincé, je veux dire, il y a plein d'étapes à franchir avant de dire la messe à Pincé un dimanche. Donc, c'est très généreux, et il faut entendre ce que vous dites. Hein. Mais je pense que dans la Sarthe, je ne connais pas un lieu où on a un prêtre de trop à un moment donné. Vraiment, très clairement. Hein. Mais je comprends parce que moi-même, vous voyez, comme curé, au début, j'ai dit, attendez, on est deux prêtres, j'avais deux prêtres aînés avec moi à la Flèche. J'ai dit, on peut aller vous dire la messe. Et puis, du coup, on a creusé un peu, et en fait, on s'est dit, non, ça va très bien comme ça.
Pourquoi laisser les personnes âgées dans les petits villages?
Il ne faut pas laisser les personnes âgées dans les petits villages, c'est d'où l'importance des fraternités locales. Après, il y a une question dans notre société française à laquelle on s'est attelé, c'est quelle est notre vie chrétienne au quatrième âge? Parce que c'est nouveau, quoi. Je veux dire, personne n'a assez de recul pour dire c'est quoi le quatrième âge. Hein. Il y a sûrement une question qu'on a à prendre en compte pour dire c'est quoi une vie chrétienne au quatrième âge. et quel moyen de faire ça. Mais voilà, il y a plein de choses. Mais parce que c'est très important de, en amont de traiter ça. Je me perds parce que c'est des sujets importants, mais je suis allé annoncer aux sœurs, vous savez, de Beaulieu, là, du bon pasteur, donc il y a déjà maintenant 6 ou 7 ans, je leur ai dit, ben, le dimanche, ça ne sera plus possible de célébrer la messe. Je suis rentré dans la pièce, il y avait 12, elles étaient 12 sœurs. Et puis il y avait une sœur très très âgée, c'était la seule qui avait gardé l'habit. Et honnêtement, quand je suis rentré dans la pièce, je me suis dit, je vais faire un mal fou à cette femme. Quand je vais lui dire, ma sœur, c'est plus possible de célébrer la messe le dimanche chez vous. Et donc j'ai exposé mon truc. Et à la fin, elle a levé la main, elle a pris la parole. Et c'est elle qui a dit à toutes ses sœurs, attendez mes sœurs, nous, depuis 50 ans, quand, moi je suis religieuse, vous un peu moins, mais tous les jours, on a eu la grâce de célébrer l'Eucharistie. Aujourd'hui, pour permettre à des plus jeunes générations d'avoir l'Eucharistie, on nous demande de plus avoir la messe tous les jours de la semaine. Et bien elle dit, ben moi, de tout cœur, je dis oui à ça. Et je pense que c'est une femme qui savait ce qu'était l'Eucharistie. Mais ça, vous voyez, ça m'a marqué. Moi, j'allais être trouille. Mais nos aînés, il y a une manière d'être chrétien au quatrième âge. Il y a un choix à faire dès aujourd'hui aussi de nos maisons de retraite. Et nous, je pense que de notre côté, on a intérêt à dire, demain, on pourra proposer une vie chrétienne dans telle ou telle maison de retraite. Je pense à Bonnières, entre autres. Mais de faire des choix comme ça, quand même. Aussi, quand on a 80 ans et qu'on déménage, et bien dans les critères qu'on a pour choisir une nouvelle maison, de se dire, je mets aussi le critère peut-être d'être près d'un pôle où je sais qu'il y aura l'Eucharistie, de le faire rentrer dans nos critères. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est des idées. Si vous avez des billes pour qu'on réfléchisse à ça, tant mieux, c'est le but de maintenant, d'ailleurs.
Il y a un point, je ne m'entends pas parler, je vois les prêtres de l'Euro, c'est que ces prêtres ont des territoires très étendus, il faut un nombre de kilomètres hallucinant tous les jours, et ça, il faut tenir compte en cohérence et en explication.
Roselyne mettait en exergue un point crucial qui était le nombre de kilomètres faits par les prêtres ruraux tous les jours pour leur service missionnaire. Ouais, c'est important de souligner l'investissement de nos prêtres pour nos communautés paroissiales.
Ils sont tout le temps sur les routes pour aller d'un endroit à l'autre, là où on a besoin d'eux, etc. Donc je pense qu'il faut être extrêmement tolérant et indulgent sur leur présence à droite ou à gauche, qui peut-être manque parfois. Mais vraiment, ils sont écartelés par les distances.
Nous aurons grâce à Dieu. Et nous allons réfléchir maintenant, merci Roselyne, sur ce point. Comment nous allons soulager nos prêtres, justement, comment nous allons nous mettre en mission pour prendre nos responsabilités, notre vocation baptismale. Alors nous vous proposons de vous retrouver en petit groupe, on va faire simple, on va prendre des rangées.